Alléluia. On va commencer une petite série d'études que c'est pas qu'on retasse tous les autres enseignements qui sont en cours, mais il est important qu'on le sait tous qu'il y en a qui veulent se faire baptiser ou il y en a qui sont peut-être indécis sur le baptême. Puis le pasteur a pris la décision que le cours de préparation au baptême devrait être donné à l'Église. Mais quand on parle de préparation au baptême, on parlera pas juste du baptême, mais on va parler aussi un peu de la base de notre foi, sur une préparation, sur plusieurs petits enseignements, sur des choses de base de notre doctrine, dans la doctrine du christianisme, entre parenthèses, quand tu deviens chrétien, tu deviens enfant de Dieu, tu as des croyances de base, basées sur la Bible. C'est un petit cours qu'on va donner sur toutes nos convictions qu'on a, qui sont basées sur des versets de la Bible. Admettons, il y a quelqu'un qui s'en vient vous voir et il vous demande « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? » Là, vous allez dire « Crois en Jésus », vous allez y réciter deux, trois versets que vous savez par cœur. Mais ce petit cours-là, ce qu'il va donner comme avantage, c'est que ça va vous donner comme des feuilles qui vous restent des mains. Puis ça va être comme un guide pour vous aider à répondre au monde, savoir où sont écrits les versets dans la Bible. C'est un cours de base, c'est rien de compliqué, il n'y a rien théologique avec des sens de mots bien... Parce que des fois, on peut expliquer des grosses doctrines qu'on ne saisit plus. C'est simplifié. C'est tous les sujets, mais simplifié. On va en voir en 10 leçons. Toutes les bases de la vie chrétienne. Le premier cours qu'on va voir comme ce matin, c'est le chrétien et la Bible. Quelle importance que là la Bible pour le chrétien. Je veux juste lire un passage avant de commencer pour nous mettre dans l'idée. L'apôtre Paul, quand il expliquait, avant je vais prier. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus qu'on est rassemblés. Je te remercie d'être là ce matin, d'être présent au milieu de nous. Je te remercie de ce que tu veux faire au milieu de nous ce matin. Je te demande, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous remplisse, nous revête, nous équipe par ta parole. On veut connaître ta parole, Seigneur. On veut savoir sur quoi qu'on base notre foi pour qu'on soit capable de parler aux autres aussi, Seigneur, sur les choses qui concernent ta parole, ta vérité. Révèle-nous ta pensée, mais aussi grave-la dans notre cœur, afin qu'on s'en éloigne point, Seigneur. Je te remercie de ce que tu vas faire au milieu de nous par ta parole, dans le nom de Jésus. Ce matin, ça ne sera pas comme une prêche. Ça va être un moment de réflexion sur les versets. Vous allez voir, quand on va arriver, on va voir des questions, puis on va voir des versets. Tout le monde va aller lire les versets. On va réfléchir sur le verset, puis on va écrire notre réponse. C'est une petite étude. Puis, en écrivant vos réponses comme ça, vous allez vous-même vous comprendre dans vos mots que ce verset-là répond à quelque chose dans votre vie. Il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est le passage, je vais aller lire, vous n'êtes pas obligé d'y aller, c'est dans 1 Corinthiens au chapitre 14. L'apôtre Paul est en train de dire, c'est beau le parler en langue, puis il faut qu'on aspire aux dons spirituels, il faut qu'on se laisse... dirigé par le Saint-Esprit, puis parler en d'autres langues. Mais il dit, dans l'Église, quand tu parles en langue, faut pas que ça soit dans le but de déranger les autres, à moins que tu peux parler en langue, puis il y aura un interprète. Puis l'apôtre Paul, quand il écrit ce verset-là, il nous met sur une piste d'une autre idée qu'on doit avoir dans notre pensée. Il dit, maintenant, frères, au verset 6, de quelle utilité vous serais-je, si je venais à vous en parlant en langue, c'est pas qu'il parlait contre le parlant en langue, mais il essayait d'enligner le parlant en langue avec quelque chose qui va être constructif. À quoi ça sert si je vous parle en langue, si je vous parle pas par révélation, connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Là, je vais vous mettre sur une piste ce matin. Dieu veut que l'on priorise des révélations, des connaissances, des prophéties qui sont des paroles qui annoncent quelque chose de biblique, et par doctrine. Il est important que nous soyons endoctrinés. C'est quoi ça, le mot doctrine? Bien, une doctrine, c'est des enseignements de base qui sont les bases de la foi chrétienne. C'est comme s'il est en train de nous dire, quand Jésus a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples », ça, c'est la première partie, « et enseignez-leur ». C'est le rôle de l'Église, quand les gens acceptent Jésus, de les ramener à l'Église et de leur donner un enseignement pour que les gens soient endoctrinés, pour que les gens comprennent les bases de la foi. Puis pourquoi qu'on est important d'être endoctriné? C'est parce qu'il va venir un temps où les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Puis là, ils vont se donner des docteurs pour écouter des choses qui flattent. Ils vont se donner des enseignements courant après les choses qui flattent. Puis ça dit dans le texte qu'ils vont se détourner de la foi. Notre foi, c'est pas l'excitation ou la pulsation qu'on a le dimanche pendant qu'on loue. Ça, c'est comme la bénédiction qu'on reçoit dans la louange. Mais la vie chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est en quoi qu'on croit. En quoi qu'on bâtit notre vie. Jésus a dit, mes disciples, ils vont bâtir sur le roc. C'est à quoi le roc? C'est sa parole. C'est de connaître les pensées de la parole. Qu'est-ce que la Bible dit sur ça? Qu'est-ce que la Bible dit sur ça? Puis ça, là, il faut bâtir notre vie là-dessus. Si on n'a pas de formation doctrinale, si on ne reçoit pas les enseignements qui est important qu'on doit recevoir, on va se mettre à croire en n'importe quoi, mais n'importe quoi de non basé sur la Bible, il n'y a plus rien qui nous retient. On va être des gens qui recherchent les expériences plutôt que de rechercher à connaître la révélation cachée de tous les mystères que Dieu a voulu donner à son Église pour que son Église croie aux vraies affaires. Parce qu'il y a plein de faux prophètes qui sont dans le monde, des faux docteurs, des faux enseignants qui enseignent des hérésies. Des quoi des hérésies? C'est des choses complètement blasphématoires, contraires à l'enseignement de la Bible. Puis là, ils entraînent les gens dans des faussetés, dans des rêves, des fausses prophéties, non basées sur la parole révélée de la Bible. Puis là, il y a un danger. Parce que quand on se met à croire en n'importe quoi, il n'y a plus rien, plus de limite. Tu as un buzz, tu as un feeling, puis là tu cours après ton feeling, puis tu penses que c'est ça la vie chrétienne, puis tu es entraîné de loin de la vérité.
Tu peux-tu en nommer une?
Oui.
Il y a un livre de la pensée, c'est la pensée de Jabez. Que si tu donnes ta vie au Seigneur, tu vas avoir une vie en abondance, mais au niveau matériel, richesse. Tu vas devenir riche sur terre.
Ça en est une menterie, ça. S'il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que tous les chrétiens vont devenir riches financièrement. Dieu a promis de pourvoir à tous tes besoins. Dieu te dit, occupe-toi premièrement de mon royaume, puis moi je vais m'occuper de tes besoins. Mais Paul, par la suite, il dit, si j'ai le vêtement et la nourriture, cela me suffit. Puis Paul, dans d'autres versets, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. Ça veut dire, Paul, il y a eu des moments qu'il n'avait rien dans la disette. Donc, si on se fie sur la prophétie, sur les promesses de nouvelles doctrines qui promettent la prospérité à tout le monde, c'est anti-biblique. Tu peux espérer que Dieu pourvoie, puis c'est biblique. Il y a plein de versets qui nous l'enseignent. Mais ça, c'est un point. Mais il y a des points même sur la base de notre salut, sur quoi on croit, sur quoi qu'on sauve. Il y en a qui croient, ils comprennent pas encore c'est quoi la repentance. On va en parler de tous ces sujets-là. Le premier thème qu'on va voir ce soir, comme je dis ce matin, c'est pas un enseignement, là, c'est pas une affaire que je vais vous prêcher tout le long. On va juste aller lire les passages qui sont écrits dans ce texte-là, puis vous allez avoir toutes les réponses que vous avez besoin de savoir sur le sujet. Le premier sujet, c'est le chrétien et la Bible. À quoi sert ce livre-là dans la vie d'un chrétien? On va juste commencer en lisant l'introduction. Le mot « Bible » veut dire « livre ». Il n'y a pas de mystère là, c'est un mot qui est « biblios », ça voulait dire « livre ». Non, juste « livre » tout court. Le livre. Dans ce temps-là, il n'y en avait pas des centaines qui étaient en cours des livres, mais quand ils ont appelé la première Bible, ils l'ont appelé « le livre », en voulant sous-entendre « le livre de Dieu ». Dans son ensemble, la Bible est composée de 66 livres. Ce qu'on voit là, c'est pas un livre. C'est 66 livres regroupés dans un livre. Il y a 66 parties de livres. La Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué. Puis dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc. C'est 66 rassemblements de 66 livres rassemblés en un seul, formé la Bible. Ça a été écrit par 40 auteurs différents. 40 personnes différentes ont participé à écrire les 66 livres. Ils se connaissaient presque pas. C'est arrivé que certains auteurs de la Bible connaissaient d'autres auteurs, mais il y en a d'autres qui se connaissaient pas, ne se sont jamais vus. Peut-être qu'ils ont lu les écrits des auteurs qui étaient avant eux autres. Ils vivaient dans des endroits différents, dans des époques différentes, sur une période d'environ 1500 ans que ces 66 livres ont été écrits. Le plus étonnant, c'est que tous ces livres ne se contredisent pas, et plutôt, ils se complètent. Parce qu'ils ont tous été inspirés d'une seule source, le Saint-Esprit. Hallelujah! Son but est de nous révéler le message que Dieu a pour nous. À quoi ça sert la Bible? Pourquoi je devrais lire la Bible? Bien, c'est pour que tu comprennes c'est quoi le message que Dieu a pour nous. Et nous apprendre à connaître Christ. Ce livre a été regroupé en deux parties. La première, étant avant la venue de Jésus-Christ, ça s'appelle l'Ancien Testament. Celui-ci est composé de 39 livres. La deuxième partie a été rédigée après la mort de Jésus par des témoins oculaires, composée de 27 livres. Ce dernier s'appelle le Nouveau Testament. C'est dans la deuxième partie que nous est révélée la nouvelle alliance de Dieu pour nous et toutes les merveilleuses promesses qu'il nous accorde en son Fils Jésus. C'est ça qu'on va voir dans différents versets. Et afin que vous ayez des paroles dans votre bouche, des versets pour répondre à ceux qui vous demandent à quoi ça sert la Bible. La première question qu'on va se poser, d'où provient-elle? Là, j'invite à aller lire Hébreux 1. Vous voyez que les versets sont écrits. On va toutes les lire, puis on va réfléchir, puis on va écrire nos réponses. C'est comme une étude qu'on ferait le mercredi, mais là, on la fait le dimanche, dans le but que tout le monde puisse participer. J'allais fouiller plusieurs versets aujourd'hui. Puis ceux qui ont de la misère à trouver, c'est où Hébreux, c'est où ici, allez voir, il y en a en table des matières, puis là, ça vous donne la page, ça va aller plus vite. Hébreux 1, au verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Si je vous pose la question, d'où nous provient la Bible? Qu'est-ce qu'on voit dans ce verset-là? Parle plus fort pour que la réponse soit enregistrée.
Oui, parce que j'ai parlé. Par le Fils de Dieu.
Il dit, dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. C'est une bonne réponse. Avant d'écrire la réponse, là, il y a une autre réponse aussi dans ce verset-là. D'où nous provient les prophètes? Ça nous dit, Dieu a parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, à nos pères, par les prophètes. Dieu a parlé par des prophètes. C'est qui ça, les prophètes? Oui. Des prophètes, c'est des personnages qui existaient avant la venue de Jésus. Puis ces gens-là étaient remplis du Saint-Esprit. Puis Dieu a parlé à ces gens-là pour que ces prophètes-là parlent au reste du peuple. Fait que d'où nous provient la Bible? La Bible nous provient d'écrits de certaines personnes dans l'Ancien Testament qui étaient appelées des prophètes. Dieu a parlé à ces prophètes-là, puis les prophètes ont annoncé ce que Dieu disait, puis ils ont écrit aussi ce que Dieu a dit. Ça nous est resté aujourd'hui. Tout le monde a écrit? Dieu nous a parlé par les prophètes, puis nous a parlé par le Fils. 2 Pierre 1:21. Qu'est-ce qu'on va aller lire dans 2 Pierre 1:21? Là, on voit que c'est l'apôtre Pierre qui nous parle. Il nous parle de où ce que provient la Bible. Il dit, car ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Qu'est-ce qu'on apprend de où ce que provient la Bible?
Par le Saint-Esprit.
Par le Saint-Esprit. Mais c'est pas par, qui dit dans ce texte-là, c'est pas par une volonté humaine. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est... Hein?
Ben, c'est pas un choix que tu peux faire.
Puis le gars qui a écrit le texte, là, inspiré par la parole de, dans la parole de Dieu, c'est pas par sa propre volonté qu'il a décidé, bon, moi, je vais écrire ça, ça va lui faire plaisir, puis là, il se décide de composer un récit. C'est les gens, dans l'Ancien Testament, quand ils ont écrit, c'est pas eux autres qui ont décidé quoi qui serait écrit. Mais c'est le Saint-Esprit qui les a poussés. Ça, ça nous enseigne que quand l'Esprit de Dieu nous parle, puis qu'on sent qu'une poussée qui nous pousse, ça vient vraiment du Saint-Esprit. Si on n'a pas ce poussé-là, il faut se questionner. C'est-tu moi qui réfléchis? Puis est-ce que je dois dire tout ce que je pense? Je pense pas qu'on doit dire tout ce qu'on pense, parce qu'on pense à toutes sortes d'affaires. Mais on a la parole de Dieu aujourd'hui pour nous guider. Puis quand on ramène ce qui est écrit, tu ne te trompes pas. Mais si tu as des choses que tu n'es pas sûr, qu'est-ce que tu vas emmener? Faut se retenir, poussé par le Saint-Esprit, des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire, d'où ce qu'elle provient, c'est pas par une volonté humaine, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Ça, ces versets-là, c'est pas moi qui les ai inventés, c'est la parole de Dieu qui le dit. Pour répondre encore, d'où provient-elle? Vous pouvez aller voir 2 Timothée 3:16. Si quelqu'un vous pose la question, d'où ce qu'elle provient, vous allez savoir. La Bible, elle provient de là, c'est dû à ça, ça a été fait de cette façon-là. Vous allez avoir les réponses. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire l'homme de Dieu dans la justice. Toute écriture vient de où?
De Dieu.
De Dieu. Dans les écrits de la Bible, tout ce qui est écrit là, c'est Dieu qui a inspiré et qui a poussé les gens à écrire ce qu'on devait recevoir à la fin des temps. Moi, je crois, là, parce qu'il y en a qui disent, « Ouais, mais la Bible, au début, c'était beaucoup de... bouche à oreille, puis ils répétaient en mémoire longtemps les textes, puis les écrits, puis les paroles qu'ils ont entendues avant de l'écrire. Puis finalement, ils ont fini par l'écrire. Des fois, c'est des périodes de 10 ans que le récit avait été dit, accompli, puis que là, ils l'ont écrit par après. Je crois que Dieu a le pouvoir de faire en sorte que les gens nous amènent exactement ce que nous devions savoir. Il n'y a pas d'autre mystère qu'on doit dire peut-être qu'il y a d'autres choses que Dieu aurait écrit ailleurs puis qu'on n'a pas eu, ou peut-être que les choses qui nous sont écrites, ce n'est pas vraiment les choses qu'on aurait dû savoir, peut-être qu'il y aurait des mensonges, peut-être que la Bible se contredit. Moi, je ne crois pas cela. La Bible me déclare, puis c'était la pensée des apôtres, c'était la pensée de Jésus même. Jésus, ce n'était pas n'importe qui, puis on va le voir plus tard, que les gens se servaient des écrits de l'Ancien Testament, puis les récitait comme étant les paroles de Dieu, les paroles inspirées de Dieu. Fait que, dans ce passage-là, ça nous dit que toute l'écriture qu'on a ici, c'est inspirée de Dieu. Ça veut dire quoi, inspiré? Il y en a-tu qui ne savent pas ce que ça veut dire? Une inspiration, c'est, nous autres, on respire, puis on expire. Mais quand quelqu'un t'inspire, c'est quelqu'un qui te pousse de l'air en toi. Il te pousse l'idée. Ça vient pas de toi qui l'a été à chercher puis qui l'a renvoyé. C'était shooté dans toi sans que tu l'aspires. C'est une inspiration qui t'a donné.
C'est comme quand tu regardes un livre, une revue, puis tu veux t'inspirer.
Tu veux t'inspirer de l'écrit d'un autre. Là, c'est l'autre qui te donne l'information, puis tu la reçois, puis là, tu analyses après. Mais la Bible, c'est Dieu qui l'a inspiré aux prophètes en leur parlant directement, des fois en apparaissant dans une forme quelconque, ou des fois, c'est un ange qui envoyait le message, ou des fois, Dieu saisit une personne, puis la personne parle, puis c'est Dieu qui parle à travers sa bouche. Galates 1:11. Il a même se servi un animal à un moment donné. Mais ça, c'est des exceptions. Paul nous parle dans Galates. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire?
Il a inspiré la Bible.
Comment est-ce que Jésus a inspiré la Bible à Paul? Jésus a apparu à Paul sur le chemin de Damas. Il est tombé à terre. Il dit, « Qui es-tu, Seigneur? » Jésus, il a dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Puis là, tu vois dans les actes que Dieu a dit aussi, je l'ai choisi pour être un témoin des choses que je lui ai apparues et pour lesquelles je t'apparaîtrai. Jésus a apparu à plusieurs moments à Paul pour lui révéler les écrits. Paul, quand il s'est converti, il s'est en allé. Il n'a pas resté là pour recevoir l'enseignement des apôtres. Il s'est en allé. Il a passé 3 ans parti. Il était à Damas. Après ça, il est retourné voir les apôtres. Puis il a expliqué aux apôtres comment est-ce que lui partageait le message. Mais il dit, ça vient pas d'un homme. Il n'a pas reçu les enseignements d'un homme. Il a eu comme une révélation de Jésus-Christ. À plusieurs reprises, Dieu a apparu à Paul pour y expliquer les vérités. Puis Paul, il a prêché le message que Dieu lui a donné. Puis ce qui est formidable, c'est que les apôtres prêchaient la même affaire. Il n'y a rien qui se contredit dans le Nouveau Testament, c'est tout. Le message était révélé par le même Dieu. Fait que si vous voulez écrire votre réponse, il l'a reçu par une révélation de Jésus-Christ. Luc 1:1. Qu'est-ce qu'on va aller lire dans Luc 1:1? Qui va nous répondre encore d'où provient-elle? Là, c'est l'évangile de Luc, c'est Luc qui l'a écrit, puis Luc a aussi écrit les Actes des Apôtres. Puis l'évangile, puis Luc, il a écrit ce livre-là. L'évangile, qui est l'histoire de Jésus, puis c'est fait, puis il a écrit aussi les Actes des Apôtres. Il a écrit ça pour donner ça à un personnage important qui s'appelle Théophile. Théophile, c'est un personnage important, j'ai pas plus de données sur qui était Théophile, mais c'est quelqu'un d'important, puis Luc, qui était un médecin, qui n'était pas une personne illettrée, c'est un médecin, quelqu'un de comme intelligent, puis qui savait écrire aussi, parce qu'à cette époque-là, c'est pas tout le monde qui savait écrire. Puis on va lire ce qu'il a fait.
Un bon journaliste.
Mais c'est un journaliste qui se fiait aux détails précis. Il n'a pas écrit n'importe quoi, on va le voir dans son texte. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. On voit que Luc, la première chose qu'il a faite, il est allé voir ceux qui étaient des témoins oculaires. C'est qui ça, les témoins oculaires? Ça veut dire quoi? Ceux qui ont vu de leurs propres yeux. Ça veut dire que quand on lit dans l'évangile de Luc, puis qu'on voit au début, l'histoire de Jean-Baptiste qui est venu au monde, puis que là, c'était sa mère Élisabeth, elle était voir Marie, puis l'histoire que Marie a prophétisé, puis tous les écrits qu'il a écrits, tout le reste de l'histoire, ça nous dit que Luc a fait une recherche auprès des gens qui étaient des témoins oculaires. Il est allé voir Élisabeth, il est allé voir Marie, puis il a écrit exactement ce qu'eux autres ont vécu, puis ce qu'ils ont entendu, puis ce qu'ils ont compris, puis ce qu'ils ont témoigné de ce qu'ils ont, de ce que, parce qu'ils ont, ils ont vu des apparitions. L'ange est allé les voir, il a donné le message. Puis les informations qu'ils ont reçues là, tu regardes, hein, au début des écrits, ça dit « Et Marie gardait ces choses dans son cœur. » Au début, c'est écrit dans Luc. Ça veut dire que Marie, toutes les expériences qu'elle est en train de vivre, là, que l'ange lui a apparu, puis les prophéties d'Élisabeth, les prophéties de Marie, puis tous les événements qui se passaient avec Jésus ou avant son ministère, quand il avait 14 ans, puis il était dans le temple, puis il parlait avec les scribes, tout ça. Et Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Fait que d'où nous vient la Bible? Ça nous vient de témoins oculaires, des gens qui étaient là, puis qui ont vu. Autrement dit, Luc n'a pas écrit selon des oui-dire. Oh, mais il semblerait qu'un autre aurait dit que, puis ça serait peut-être ça qu'il a dit, il n'a rien écrit de oui-dire. Des faits, uniquement des faits. C'est important, ça? Moi, je trouve ça très important, parce qu'il y en a qui disent « Ah, oh, mais le monde écrit n'importe quoi. » Non. La Bible nous le dit, c'est des témoins oculaires. Puis, c'était pas des n'importe qui, ces témoins-là. Tous les ceux qui étaient là, ils sont devenus des ministres de la parole. C'était des gens avec un sérieux, qui avaient la crainte de Dieu, puis qui marchaient droit dans la vie. 2 Pierre 1,16. On va voir qu'est-ce que Pierre dit, lui. Encore un autre verset pour nous appuyer d'où ce que provient la Bible. Ça, c'est comme si ça l'enchaîne avec les autres points qu'on vient de lire, puis ça se complète. 2 Pierre 1,16. Ce n'est pas en effet suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. C'est puissant. Il dit là, ce qu'on vous a expliqué sur la parole de Dieu, le message qu'on vous enseigne pour le salut, puis ainsi de suite, c'est pas des fables là, habilement conçues, comme si on aurait trafiqué entre les 12 apôtres. Là, on va lui dire ça, puis on va lui expliquer ça, d'inventer des romans savants pour essayer de mettre de la foi, puis stimuler la foi avec des menteries. Pas en tout. Il dit, le royaume de Dieu qu'on a prêché, là, on vous a fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur qui est venu sur la terre. On l'a vu de nos yeux, on a vu les miracles, on a entendu ses paroles, puis on vous les a fait connaître sans modification. C'est ça que ça sous-entend. Autrement dit, tout ce qu'on voit là-dedans, c'est pas une fable, c'est pas un roman savant, c'est pas des mythes, c'est pas des légendes, c'est des faits vécus. Il y en a qui aiment ça écouter des films à la télévision, des faits vécus. Puis là, en réalité, même des films à la télévision, des faits vécus, c'est bourré de menteries. C'est pas les vrais noms, c'est pas les vrais acteurs, c'est même pas les vraies paroles. Ils ramassent le fait vécu. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, enseigné par des témoins oculaires qui repassaient dans leur cœur continuellement les enseignements puis les choses qu'ils étaient témoins, puis ils ont retransmis d'une manière exacte les choses sans modification, afin que notre foi soit basée sur des choses véridiques, des choses vraies. Quand Jésus, ta parole est la vérité, ça serait bourré de mensonges, ça serait pas une vérité. Hein? Amen.
Ce que j'admire là-dedans, entre autres, là, dans ce que, parce que je crois que c'est tout, c'est ton travail personnel.
Oui.
Puis toi-même aujourd'hui, on voit que tu es inspiré du même Saint-Esprit, parce qu'avant de nous raconter d'autres histoires, tu nous dis tout de suite d'où ça part. C'est inspiré. Si tu regardes, chacun des hommes ont tous commencé dans le chapitre 1. dès le départ, donc, on s'appuie sur les vraies affaires. Après, on en rajoutera d'autres. Tu fais la même chose.
Oui, gloire à Dieu.
Ouais.
C'est important aussi que chacun de nous autres, on réalise c'est quoi, puis que ça devienne la priorité dans notre vie. On veut baser notre foi. Je ne veux pas critiquer sur personne. Je ne vise pas personne. Mais si quelqu'un dit, « Ouais, mais où est-ce que ça devient, tout ce que tu as entendu? » Là, vous allez dire, parce qu'il va dire, « T'as lu la Bible? Ben là, je l'ai entendu le dimanche à l'église. Sur quoi vous basez votre foi? Êtes-vous prête à mettre votre éternité dans les mains d'un gars qui parle en avant? Êtes-vous prête à mettre en enjeu votre éternité en vous fiant à n'importe qui vient vous dire n'importe quoi? Faut que vous alliez sonder les Écritures pour savoir est-ce que ce qu'on vous dit, c'est vrai. Pour que votre foi soit basée, c'est vrai. Chose, la Bible. Il n'y a rien qu'une seule Bible. Puis il y a des centaines, puis des milliers de religions. Laquelle qui dit vrai? Êtes-vous sûr d'être assis à la bonne place ce matin pour venir entendre les paroles? Si vous n'êtes pas sûr, il est grandement temps que vous alliez commencer à lire la Bible, puis la lire d'une manière systématique. C'est une systématique, ça veut dire, tu commences du début, puis tu lis jusqu'à la fin, puis une fois que tu as fini, tu recommences, puis tu lis, puis tu lis, puis tu lis, puis tu lis, puis tu demandes à Dieu, éclaire-moi, Seigneur, je veux le savoir, puis je veux l'apprendre, puis là, tu vas la relire, puis la relire, puis la méditer, jour et nuit, que la Bible nous dit de méditer sa parole, jour et nuit. Puis là, il dit, tu vas avoir des progrès, tu vas avoir les bénédictions de Dieu, tu vas avoir une réussite dans ce que tu entreprends, tu vas avoir l'éclaircissement, puis on va en avoir plein de beaux passages qui nous parlent de ce qu'on a en lui. Oui. On va toucher un deuxième point. Quelle est sa valeur? Que dit-elle d'elle-même? Parce que c'est bien beau que ce soit des paroles annoncées, des paroles véridiques, des paroles inspirées de Dieu. C'est quoi sa valeur? Mais on commence par le petit paragraphe. Plusieurs prophéties. Y en a-tu qui ne savent pas c'est quoi le mot prophétie? Pour ceux qui ne savent pas, une prophétie, c'est quand une personne reçoit un message qui vient de Dieu, puis transmet le message qui vient de Dieu, et que ce soit un message qui annonce quelque chose. Soit que ça annonce quelque chose de présent en révélant quelque chose de présent, ou soit en annonçant quelque chose qui doit arriver un peu plus tard, dans la suite, en annonçant quelque chose dans le futur, c'est une prophétie. Mais, ça veut dire que la Bible, il y a plein de passages qui sont des choses, qui annoncent des choses à venir. Bon. Plusieurs prophéties ont été accomplies, avant la venue de Jésus, plusieurs centaines de prophéties ont eu l'accomplissement lors de la venue de Jésus, et plusieurs autres prophéties sont en train de s'accomplir vers la fin des temps. Là, on est rendu là aujourd'hui. La Bible est remplie de prophéties. La Bible est remplie de paroles qui ont été annoncées de Dieu, qui annonçaient les choses à venir. Puis il y en a plein qui sont accomplies avant que Jésus vienne. Plein sont accomplis lorsque Jésus était là. Puis il y en a plein d'autres qui sont en train de s'accomplir des choses qu'on voit. J'ai un petit document, j'en ai déjà parlé dans une prêche, que j'ai à peu près 75 prophéties qui sont écrites, la prophétie qui l'annonçait avant, puis l'accomplissement dans le Nouveau Testament. J'ai le petit document ici. Je pense qu'il y a 75 prophéties qui se sont accomplies telles qu'elles étaient annoncées, puis ce n'est pas des prophéties obscures. C'est comme des prophéties de Nostradamus qui disent qu'il a prophétisé ça. Tu lis le texte, tu ne comprends rien de ce qu'il a dit, puis tu dis n'importe quoi comme interprétation. Des versets, quand Dieu prophétise de quoi dans l'Ancien Testament, c'est clair comme de l'eau de roche. Tu relis ça, puis on dirait que ça aurait été écrit quand ça s'est passé. Des prophéties se sont accomplies telles que c'était annoncé. Si vous en voulez des preuves que est-ce que la Bible a des prophéties qui sont vraies, ben je vais vous donner le document. Allez lire ça, vous allez vous apercevoir que c'est bourré de choses que Dieu annonçait d'avance puis qui se sont accomplies telles qu'ils avaient annoncées. Pourquoi que Dieu aurait fait ça? Pour qu'on ait la foi en lui. Pour qu'on comprenne qu'il est vraiment l'auteur de ces écrits-là. Qu'est-ce qu'on voit dans Matthieu 24? au verset 34. Jésus est en train de parler. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute la parole de Dieu qu'on a, l'Ancien Testament qui était les paroles que tout devrait s'accomplir, les écrits que Jésus a annoncés, ben Jésus quand il écrit ça, c'est dans Matthieu 24, puis il est en train d'annoncer des signes qui s'accompliront avant son retour, dans Matthieu 24, là il nous dit cette parole-là, puis il dit, ce que je vous dis là, Jésus qui parle, je vous le paraphrase, c'est du plus solide que votre planète. Il dit, votre planète va disparaître, puis l'univers va disparaître, puis mes paroles ne disparaîtront point que tout cela n'arrive. La parole de Dieu, c'est du solide. C'est plus solide que l'univers qu'on voit dans lequel on est créé. Tout ça va disparaître, puis ça, on va le voir dans un autre passage, ça demeure éternellement. Fait qu'il pouvait écrire, ces paroles ne passeront point. J'espère que, parce qu'il y a des fois, j'ai oublié de vous dire les réponses, là, mais j'espère que vous avez compris les réponses, vous avez écrit des réponses en vos mots. Désolé. 1 Pierre 1,25. Pierre est en train de nous dire, « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Et où l'Évangile? C'est le Nouveau Testament. Puis Pierre, pour confirmer encore plus sa foi, pour dire qu'en quoi qu'il mettait sa foi, il dit, les paroles là, de l'Évangile qu'on vous enseigne depuis le début, là, hein, ça demeure éternellement. Ces paroles ne passeront point. L'Évangile veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle du message de Jésus-Christ qui est mort sur la croix dans la Nouvelle Alliance, là, c'est la bonne nouvelle. Ça demeure éternellement. Ça veut dire qu'on va arriver l'autre bord. Hein, ça veut dire que quand on va arriver l'autre bord, dans la vie sans fin, la Bible va être en cours là. Ça va servir de témoignage de tout ce que Dieu avait annoncé. Puis en plus, ça va servir à quoi d'autre? Dans ce qu'on va voir dans le prochain verset, dans Jean 12, 48. Puis ça, c'est encore une autre réponse qui est bonne à dire à ceux qui se moquent de la Bible en disant, « C'est écrit par des hommes, puis c'est pas important, ça sert à rien, puis j'ai pas le temps de la lire, puis ils n'ont aucun intérêt à sa parole. Pourtant, Dieu avait dit dans la parabole du mauvais riche puis du pauvre Lazare, là, il dit, envoie Lazare, il ressuscite-le, ils vont croire ensuite, ma famille va croire ensuite quand ils vont avoir un mort. Moïse a répondu, Abraham a répondu, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. C'est qui ça, les Moïse et les prophètes? C'est les écrits de l'Ancien Testament. Qui écoutent la parole de Dieu, les écrits de l'Ancien Testament, parce qu'ils n'ont pas d'amour et d'intérêt pour la parole de Dieu. Ils ne se laisseront pas persuader, même si un mort ressuscite. Jean 12, 48, il dit, « Celui qui me rejette, c'est Jésus qui est en train de parler, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. » Il est déjà jugé. Celui qui rejette Jésus et qui ne s'attache pas aux paroles, qui ne reçoit pas les paroles de Jésus, il est déjà jugé, et la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est qui ça le dernier jour? C'est quand ça? On le voit la vision dans Apocalypse au chapitre 20, où ce qu'on parle d'un grand trône blanc, puis que la résurrection, tout le monde qui se tienne devant le trône, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, un livre fut ouvert. C'est la parole de Jésus. qui demeure éternellement, puis c'est elle qui va juger les nations. C'est elle qui les jugera au dernier jour. Puis, des livres furent ouverts, puis il y avait un autre livre qui est le livre de vie. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Ça veut dire, tout ce qu'on a fait sur la terre, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, c'est tout gardé dans un livre qui est le livre du souvenir. Puis Dieu se rappelle de chacune de nos paroles, de nos actions, de nos gestes, de nos agissements. Même si vous étiez seul dans la noirceur, Jésus l'a dit, tout ce qui est fait dans les ténèbres sera prêché sur les toits. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, que la Bible nous dit. Les gens vont avoir en compte de chaque parole vaine qu'ils auront proférée. Chaque fois que les gens ont dit quoi, qu'ont parlé dans méchanceté ou contre Dieu, ou en pensée, ou en parole, ou en agissement, Dieu sonde les pensées des cœurs, puis ça nous dit que la Bible pénètre l'âme et l'esprit, puis elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. La Bible va juger tout le monde de A à Z. Fait que si tu es mort dans tes péchés, parce que tu n'as pas été chercher le pardon qui est en Jésus, parce que ça le dit, celui qui me rejette en parlant de Jésus et qui ne reçoit pas mes paroles, il est déjà jugé, il a son juge. C'est le seul moyen d'être pardonné. Il dit, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui va le juger au dernier jour. Est-ce importante la Bible? J'entends des amens.
Amen.
C'est la parole éternelle de Dieu. Que pensez-vous? Que pense Jésus à propos de la Bible? La bonne réponse, c'est la parole qui jugera le monde.
Ah, moi, j'ai marqué la Bible.
Oui, c'est correct. La Bible, c'est la même chose. Quand on parle de la Bible, la parole de Dieu, qui jugera les gens qui sont morts dans leur péché. On ne pourra pas se cacher. Tout le monde va ressusciter. Tout le monde va en comparaître. Que pense Jésus à propos de la Bible? C'est important. Moi, je pense que c'est important de savoir l'opinion de Jésus. Jésus, c'était pas n'importe qui. On va le voir dans la prochaine étude qui va nous parler qui est Dieu. Puis je vais expliquer que Dieu le Père, que Jésus aussi est Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu. Puis il y a des versets qui affirment ces choses. Ça va nous servir pour répondre aux témoins de Jéhovah ou répondre aux autres religions. Mais il est important de savoir que Jésus est Dieu. Quand Jésus a dit son opinion sur la Bible, c'était des choses importantes. Jean 8, 55. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Là, il parle de Dieu. Quand il parle de Dieu, il dit, pour moi, je le connais, Dieu. Puis si je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Qu'est-ce que Jésus pensait de la parole de Dieu? Puis à cette époque-là, la parole de Dieu, il y avait l'Ancien Testament qui était là. C'est tout ce qui était là dans ce temps-là. Qu'est-ce que Jésus pense de la parole de Dieu? Est-ce quelque chose qu'il devait apprendre? Est-ce que c'est quelque chose qu'il devait méditer? Est-ce que c'est quelque chose qu'il devait mettre en pratique? Qu'est-ce que Jésus faisait? Il gardait la parole. Et je garde sa parole. Qu'est-ce que je dois comprendre dans cette déclaration-là? Il garde la volonté de Dieu. Il s'appliquait à pratiquer, à mettre en pratique ce que Jésus, ce que son Père avait enseigné dans la parole. Pourquoi c'est important que Jésus la pratique et la garde, sa parole? Parce que ça prenait quelqu'un de 100% juste. 100% sans aucune désobéissance pour pouvoir racheter l'humanité. Si Jésus avait transgressé un seul point de la parole de Dieu, il aurait été lui-même un coupable, il n'aurait jamais pu racheter l'humanité. La Bible a dit que Jésus était tenté en toute chose sans commettre de péché. Puis Jésus a vécu une vie sans aucun péché, et à cause de ça, il pouvait nous racheter. Ça veut dire qu'en quand il dit qu'il connaît son Père et qu'il garde sa parole, ça veut dire qu'il met en pratique ce qu'il devait pratiquer afin de ne pas désobéir à son Père. C'est-tu assez puissant? Est-ce que Jésus trouve ça important de la connaître et de la mettre en pratique? Oui. Je pense pas que Jésus prenait sa vie à la légère, puis s'en permettre quelques-unes. Oh, c'est pas grave, personne ne va le savoir, tout le monde le fait, c'est pas grave, c'est à la mode. On peut être à côté, c'est à la mode. On peut vivre toutes les façons, c'est pas grave, c'est à la mode. Non, Jésus lui gardait sa parole, c'était une préoccupation, c'était un engagement qu'il avait depuis sa naissance. Qu'est-ce que faisait Jésus aussi dans Luc 24, 44? On va voir qu'il n'y a pas juste l'aspect de s'en servir pour pratiquer quelque chose. Dans la vie, Jésus s'en servait de la parole de Dieu pour faire quelque chose d'important que tout le monde doit comprendre aussi. Là, c'est Jésus qui était ressuscité et qui est en train de parler aux disciples qui s'en allaient sur le chemin d'Emmaüs. Jésus est en train de leur expliquer. C'est là que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes, et il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Ça, là, c'est un verset puissant. Je ne l'ai pas entendu souvent dans des prédications. Mais il y a des vérités là-dedans, là, incroyables. Savez-vous que toutes les prophéties de l'Ancien Testament, qui étaient la parole de Dieu, là, il est important que tout s'accomplit? Quand Jésus est monté à la croix, il dit « Tout est accompli ». Ça ne se pouvait pas qu'il y ait des prophéties de l'Ancien Testament qui touchaient à Jésus, qui touchaient à l'histoire jusqu'à temps que Jésus, ça ne se pouvait pas qu'il y ait des prophéties qui ne s'aient pas accomplies ou qui se sont accomplies différemment. Il était important que tout ce qui s'accomplissait, c'était conforme aux écrits de l'Ancien. C'est pour ça que, afin qu'il soit accompli, tu vois ça une phrase des fois, ce que le prophète avait dit, puis là il donne une déclaration. Plein de passages comme ça nous parlent, afin que s'accomplisse selon les Écritures que ta.
Vers la fin, là, Jésus devait avoir hâte que les soldats jouent au yo pour gagner sa tunique.
Ouais, tirer au sort sa tunique. Oui, ça faisait partie d'une prophétie de l'Ancien Testament qui était écrite, ils ont tiré au sort ma tunique. Fait que quand Jésus est en train de mourir, il t'a cloué sa croix, c'est même pas lui qui l'a accompli, c'est les soldats qui étaient là, ça s'accomplissait exactement comme ça avait été annoncé par un prophète. Pourquoi? Parce que Dieu-là, qui a poussé des idées aux prophètes, les prophètes les ont écrits, ce Dieu-là, notre Dieu, voit l'avenir. Il voit la fin de l'histoire avant qu'elle commence, puis il a pu annoncer les choses telles qu'elles étaient pour se passer. Il est éternel, ce Dieu-là. Il n'est pas limité par le temps comme nous autres. On a une dimension, qu'on a eu un commencement, qu'on a une fin, puis on calcule toute notre vie basée sur que ça avance. Mais Dieu est éternel. Dieu voyait tout ça d'avance. Puis il a pu annoncer d'avance les choses. Puis Jésus, au verset 44, il dit... Il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi. C'est obligatoire. Il n'y a pas. C'est pour ça qu'il est important d'aller chercher les versets, de l'étudier, de la méditer. On va découvrir plein de choses qui sont vraies. On va en voir d'autres qui s'en viennent des choses dans le futur. Il y a plein de choses qui étaient écrites à propos de Jésus dans la loi de Moïse, dans les prophètes, puis dans les psaumes. Là, il leur a donné, ils ont ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Puis là, au verset 46, on s'efforce. Ainsi, il est écrit. C'est déjà écrit dans l'Ancien, là, que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, que la repentance et le pardon des péchés sera prêché. Le message du salut des âmes, commencé par prêcher par Jean-Baptiste, est annoncé d'avance. La voix qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur, pour aplanir ses sentiers, puis prêcher le message de la repentance. Il fallait que ça s'accomplisse, comme c'était annoncé. Jésus lui rouvre l'intelligence. Comprenez ça, c'était écrit que je viendrai, que je mourrai, puis que le pardon des péchés sera annoncé à toutes les nations, que le salut sera poigné pour les Juifs. C'était écrit avant, dans l'Ancien. Puis là, il a dit, ça commence à Jérusalem. Puis là, il dit, vous êtes les témoins de tout ça. Hein? Jésus, il dit, vous êtes les témoins de tout ça. Pourquoi qu'il dit ça? Mais ses disciples-là d'Emmaüs, ils étaient là quand Jésus parlait. Ils étaient là quand Jésus faisait des miracles. Ils étaient là quand Jésus est monté à la croix, puis il est ressuscité le troisième jour. Puis ils étaient là quand Jésus était devant eux autres en train de leur expliquer. Jésus était ressuscité, là, puis il est apparu à ces deux personnes-là, puis il leur expliquait les Écritures. C'est fort. Puis là, il dit à ces deux disciples-là, vous êtes des témoins. C'est pour ça que nous, les chrétiens, on est les témoins de ce qui a été écrit, puis de ce qui a été accompli quand Jésus est venu. Puis là, on est là pour annoncer ça à tout le monde. Jésus est ressuscité conformément aux Écritures. Puis il y a des preuves historiques, et j'en ai d'autres preuves. Il répond à mes prières, il est présent autour de moi. Il agit à des fois des moments où je m'en attends pas. Des fois, il y en a qui peuvent dire qu'ils ont entendu des paroles que Dieu leur a parlé. On est témoin que la Bible est vraie, puis qu'il y a une expérience à vivre avec Dieu. Puis Dieu nous envoie tout simplement dire, va dire aux tiens et à ceux de ta maison de ce que le Seigneur t'a fait, ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Puis plus vous allez aller la Bible, plus vous allez comprendre, il est arrivé ça conformément à ce qui était écrit là. Puis là, vous allez être là en train de répéter ce que vous avez vu et entendu. Vous allez être vous-même des témoins. Qu'est-ce que Jésus faisait? L'avez-vous écrit la réponse? La réponse qu'on écrit, c'était important. Qu'est-ce que Jésus pensait de la Bible? Mais il dit, il fallait que tout s'accomplisse. C'est important pour Jésus, la Bible, il n'y a pas de « c'est pas grave s'il y a une couple de prophéties qui ne se sont pas accomplies ». Lui, quand il était à sa croix, il a dit « tout est accompli ». Il fallait que tout s'accomplisse parce qu'il croyait à la parole de Dieu. Il est la parole incarnée, l'accomplissement des écrits. Mais il y en a une couple encore qui vont s'emmener, qu'on voit déjà des choses s'accomplir, puis on en voit encore d'autres. Une des belles choses, ça va être son retour. La Bible nous l'a annoncé, c'est encore une prophétie qui n'est pas arrivée, puis on va le voir sur les nuées.
Les gars, sur le chemin d'Emmaüs, ils disent après, notre cœur ne voulait-il pas dedans de nous,
oui.
Nous avons entendu ces vérités.
Oui.
Moi, je me rappelle, quand j'ai compris le salut par la foi, par la grâce,
oui.
Il s'est produit quoi? Parce que je disais, j'ai compris,
oui.
Hey, je l'ai,
oui.
J'ai la détermination.
C'est ça.
Il s'est passé de quoi comme ça?
C'est ça. C'est ça qui est de réaliser, de prendre conscience. C'est là que ça nous dit, il a ouvert l'esprit pour qu'il comprenne les Écritures. Pour que ça ne soit pas juste un répétage de ce que l'autre dit, mais une expérience que tu vis toi-même, que tu expérimentes. La nouvelle naissance, toutes les autres révélations de la parole, c'est quelque chose qui se vit. C'est pas quelque chose que tu apprends par cœur sans comprendre, puis que tu fais que répéter, comme ceux qui lisent le Coran, puis l'apprennent par cœur. Ils ne le comprennent pas. Ils lisent l'Ancien, là, puis ils lisent les écrits de leurs prophètes, puis ils ne comprennent pas, mais ils sont là, puis ils essayent de trouver une manière pour être sauvés. Ils n'ont aucune possibilité, dans le Coran ou dans les autres religions, d'avoir l'assurance de la vie éternelle produite par le Saint-Esprit, parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Qu'est-ce que Jésus faisait aussi pour nous montrer que c'est important pour lui la parole de Dieu? Matthieu 4, 10, c'est ça qu'on a parlé tantôt l'autre bord. Jésus lui dit, Jésus est en combat là, le diable était devant Jésus. Le diable est en train de parler à Jésus pour faire tomber Jésus dans le péché. Qu'est-ce que Jésus a répondu au diable? Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Il s'est servi d'un verset de l'Ancien Testament pour combattre le diable comme un épée. Quinte-toi, retire-toi, il est écrit ça. Claire, il donne un coup d'épée d'en face. La Bible nous le dit que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Le Saint-Esprit, il veut équiper les croyants avec des versets de la Bible pour être capable de répondre au diable quand un doute, une tentation, des mensonges, des choses qui essaient de t'entraîner dans un péché. Arrière de moi, Satan, il est écrit telle affaire. Puis là, tu lui donnes le verset. Lui, c'est comme un coup d'épée. Ça dit, le diable, il va fuir loin de vous quand tu vas lui résister. C'est important qu'on apprenne des versets par cœur, surtout sur le salut, tout ça, mais des versets qui nous servent à nous garder aussi dans le chemin de la sanctification. Parce que le diable assez tôt nous entraîner dans le péché. Il faut ramener les versets. Il est écrit. Il est écrit. C'était-tu important pour Jésus, la Bible? C'est important parce qu'il s'en servait à même se défendre. Avez-vous écrit votre réponse? Jésus se servait de la Bible pour combattre le diable. Que peut-elle apporter aux chrétiens, la Bible? Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés. Ça, ça parle aux chrétiens. Aux gens qui sont en train de grandir dans le Seigneur, puis ils sont en train de se fortifier dans le Seigneur. Et vous avez été édifiés sur quoi? Sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute notre croissance, quand on grandit dans le Seigneur, on s'édifie, on grandit dans le Seigneur, on est basé sur quoi? Sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus, c'est la pierre principale. Fait que tout ce qu'il y a, les apôtres qui ont enseigné, ce que les prophètes ont enseigné, ce que Jésus a enseigné, qui est la pierre principale, c'est là-dessus qu'on est basé, qu'on est édifié. Ça veut dire, que peut-elle apporter aux chrétiens? Ça peut nous apporter de grandir, puis de se fortifier, basé. Sur quoi? Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Sont où les enseignements des apôtres et des prophètes? C'est la Bible, c'est le Nouveau Testament. Les prophètes, ça parle de l'Ancien. Puis les apôtres, c'est le Nouveau Testament, qui ont écrit le Nouveau Testament. C'est les enseignements qui sont nécessaires pour édifier les croyants. Ça sert à nous édifier, à nous faire grandir. Romains 1:16, à quoi que ce verset-là nous dit que la Bible peut nous apporter? Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La Bible, c'est une puissance de Dieu qui peut sauver tout le monde qui y croit. Tiens, amen à cela. Cette puissance-là, elle peut sauver les âmes. Fait que quand on prêche, là, c'est pas nécessairement tous nos beaux discours qui sauvent. C'est les versets de la parole de Dieu qui pénètrent le cœur, puis les gens réalisent les Écritures, puis là, ils se convertissent, pas à nous autres qui se convertissent, ils se convertissent à Jésus, ils se mettent à suivre Jésus dans leur vie, puis à appliquer la parole de Dieu. C'est une puissance qui peut les sauver. Écrivez ça. Qu'est-ce qu'elle peut nous procurer aussi la parole de Dieu dans Romains 10:17? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que ça fait quand je me nourris de la parole de Dieu? Ma foi augmente. Si vous dites, si quelqu'un dit, ben moi je ne crois pas, ben toi, lis la Bible. Tu vas les voir de tes yeux, les versets qui parlent de ce que Jésus a dit et ce que Jésus a fait, puis ta vie va changer. Parce que la parole de Dieu, c'est une puissance, ça peut le sauver. Les gens, notre foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Notre foi vient de la parole de Dieu. Plus qu'on va l'entendre, puis plus que notre foi va augmenter. Écrivez ça. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? ça, elle augmente notre foi. 1 Pierre 1:23. Je ne veux pas trop m'éterniser en explication, parce que je veux essayer de passer à travers de cette petite étude-là aujourd'hui. J'ai déjà donné ce cours, c'était ben, un peu plus long, puis ça va durer pas mal longtemps. 1 Pierre 1:23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Qu'est-ce qu'elle peut faire, cette parole-là? Nous régénérer. Ça, là, une régénération, c'est un changement de gène. Ta génétique va changer. Ta personnalité va changer. Physiquement, dans certains aspects, tu peux être guéri par une parole de Dieu, mais c'est intérieurement l'homme nouveau que la vie nouvelle, que la parole de Dieu nous régénère. Puis elle dit, c'est pas une semence corruptible, mais une semence incorruptible. Qu'est-ce qu'il va dire par là? C'est que la parole de Dieu, c'est une semence. Le mot semence, c'est un spermatozoïde de Dieu qui pénètre ta vie, puis qui te régénère, puis qui te change en une nouvelle créature. T'es changé, mais génétiquement, spirituellement parlant. Tes pensées vont changer, tes sentiments, tes émotions, ta personnalité, tu deviens une nouvelle créature, une nouvelle personne. Par la semence de Dieu, c'est pas une semence normale, c'est la semence incorruptible de Dieu. C'est quoi cette semence-là? C'est par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est fort!
Aussi l'image d'une semence en terre quand tu vas planter un légume ou un fruit. Des fois, on va en semer une dizaine, il y en a trois qui vont pourrir, qui vont se corrompre. Tandis que celle de Dieu, elle, est sûre que quand elle va entrer en dedans de toi, qu'elle va juste donner un beau jardin.
Oui.
Ça va juste être super, t'es sûr
oui.
de sa qualité.
Oui. C'est, la parole est pas menteuse. Tout ce qui est écrit va s'accomplir. Oui, il y a des conditions pour arriver à ce que le changement s'opère. La repentance, la confession, puis les proclamations des vérités. En renonçant à ta vie, tout ça, ça c'est la repentance. Mais il y a des conditions que ça arrive, mais à la base, la parole, elle ne manquera point. La parole est vivante et permanente. Ça se corrompt pas, c'est incorruptible. Fait qu'elle nous régénère, elle nous modifie génétiquement. Oui. Qu'est-ce qu'on voit dans Jean 8? Qu'est-ce que peut produire aussi la parole? Qu'elle peut-elle apporter aux chrétiens? Jésus est en train de parler, puis il dit aux Juifs qui avaient cru, il parle à des Juifs croyants, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Qu'est-ce que peut produire la parole de Dieu? Quel avantage peut-elle apporter aux chrétiens? Nous libérer. Jésus a dit à du monde qui croit, là. Nous autres aussi, on est des gens qui croient en Jésus. C'est comme si Jésus est en train de nous dire, si, conditionnellement, que si tu persistes, tu persévères, tu te maintiens dans ma parole, là, tu vas connaître la vérité. Puis là, la vérité va te rendre libre. Ça veut dire que cette parole-là a la puissance de vous libérer de vos péchés, de vous libérer de vos mauvais penchants, de vous libérer de vos liens, de vos chaînes, de servitudes que vous avez dans vos vies. En autant que vous voulez qu'elle pénètre votre vie, demeurez dedans, continuez à vous en nourrir, la méditer, la confesser, vous allez voir les changements qui vont s'opérer dans votre vie, vous allez devenir libre.
Amen.
Par la puissance de la parole vivante et permanente de Dieu.
Amen.
Alléluia!
Ça va, ça gère.
C'est le feu, c'est la puissance, c'est la vérité. Ça produit quelque chose dans nos cœurs présentement. Qu'est-ce qu'on voit dans Psaume 107, le verset 19? Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'est-ce que ça peut apporter dans la vie d'un croyant, la parole de Dieu? Cela peut nous délivrer de nos angoisses. Quand on est dans la détresse, dépression, oppression, un problème dans votre vie, vous êtes dans la détresse, quand tout va mal, puis là, l'angoisse commence en dedans de vous autres, en commençant à vous énerver, puis à vous inquiéter, puis les doutes embarquent, puis l'ennemi en rajoute. Commencez à consulter la parole de Dieu sur ses promesses, méditez ses paroles, confessez-les, puis vous allez être délivrés de vos angoisses. Ça ne veut pas dire que le problème va disparaître instantanément, non, mais ça dit que votre angoisse va partir. Vous allez avoir une guérison dans votre âme par la parole de Dieu, parce que c'est une puissance. La minute que tu te confies en Dieu, puis tu t'assis dans les versets de la parole de Dieu, puis là t'es confiant que ce que Dieu il t'a promis, ça va s'accomplir. Tu vas être délivré de tes angoisses, puis il va te faire échapper de la fosse. T'as crié dans ta dépense.
J'étais dans un danger il n'y a pas tellement longtemps. J'étais dans un danger. Donc, quand c'était immédiat. Et puis là, c'était comme... au bout du jour, j'ai dit, Seigneur, tu fais de quoi? Ben, j'ai crié à Dieu, Dieu, tu délivres-moi de cette situation-là. Puis, ça n'a pas été long, après 15 ans, tu fais des choses.
Gloire à Dieu. Un autre verset, Matthieu 8, 16, qui nous parle encore qu'elle peut guérir non seulement notre âme, mais qu'elle par la parole de Dieu, Jésus guérissait aussi les gens qui étaient malades. Matthieu 8, 16, ça nous dit, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. » Jésus, quand il était présent sur la terre, il servait de la parole que le Père lui disait. Puis il répondait à ceux qui étaient pris de mauvais esprits, il chassait les esprits, puis ceux qui étaient malades, ils étaient guéris. Puis qu'est-ce que Jésus utilisait? Sa parole. Il faut comprendre que la parole que Jésus a dit, voilà 2000 ans ce que Jésus a dit, ça guérissait du monde, ça délivrait des démons. La parole de Jésus est aussi puissante aujourd'hui. Elle peut encore vous délivrer, comme qu'on a vu aussi dans d'autres versets, de vos péchés, de vos angoisses, de vos problèmes, de vos situations difficiles. Elle peut vous guérir aussi physiquement. Tu t'accroches à la promesse qui dit, « Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. » Ça, c'est un verset de la parole, ça. « Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. » Tu peux t'accrocher à un verset de la parole de Dieu, prier Dieu, de confesser le verset, puis attends-toi de Dieu que Dieu te guérisse, puis Dieu peut te guérir. Tu peux obtenir des guérisons en ayant la foi en sa parole. Psaume 119, 130, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter aux chrétiens, cette parole-là? La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Tu n'as même pas besoin d'être venu au monde intelligent pour être une personne intelligente dans ce monde. Tu as juste besoin de commencer à lire la Bible, puis à y croire, puis devant Dieu, tu es un sage, tu es un intelligent. Dieu te déclare sage et intelligent, pas à cause que les hommes, eux autres, vont te le dire. Peut-être les hommes vont te trouver stupide, idiot, ignorant. Parce que la sagesse du monde n'est pas comparable à la sagesse de Dieu. Les gens dans le monde avec la sagesse du monde ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas la sagesse de Dieu. Mais une personne qui se nourrit de la parole, elle va t'éclairer, Tu vas savoir dans quel chemin marcher, puis tu vas être un sage, un intelligent devant Dieu, même si tu es une personne simple. Puis quand est-ce que les gens vont s'en rendre compte, les chrétiens vont s'en rendre compte, les autres qui aiment la parole vont s'en rendre compte que tu es une personne sage qui marche selon la parole. Quand on va arriver à l'autre bord, c'est Dieu lui-même qui va nous le dire. Viens, bon et fidèle serviteur. Dieu va honorer ses enfants qui ont persévéré dans sa parole jusqu'à la fin. Sa parole nous éclaire et nous donne de l'intelligence. 1 Thessaloniciens 2, 13. Qu'est-ce qu'on apprend encore sur la parole? C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais comme elle l'est vraiment, véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. C'est ce petit bout de phrase-là que je veux qu'on mette l'accent ce matin. Ces gens-là, ils ont reçu la parole, non comme une parole qui venait des hommes, mais ils l'ont reçu comme étant la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Qu'est-ce que la parole de Dieu peut apporter aux chrétiens? Mais pas n'importe quel chrétien. Aux chrétiens qui croient. Qu'est-ce qu'elle peut apporter? Elle va agir. Elle va s'accomplir. Elle va faire son effet. Si les gens y croient, ça peut arriver des fois, quelqu'un dit, crois que tu peux être guéri en priant Dieu. Puis les gens doutent, puis ils disent, oh, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Mais ils n'auront pas la guérison, c'est clair. Ça agit quand tu y crois. Ça veut dire, la Bible, tout ce qui est écrit là comme promesse, tu peux les expérimenter si tu y crois. Elle agit dans ceux qui croient. Amen. Qu'est-ce qu'on veut, ce qu'elle peut nous apporter, la parole de Dieu, dans Josué 1:8? Tout le monde l'a lu souvent, celle-là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car, c'est là qu'est la promesse, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Si nous croyons que la parole de Dieu est vraie, puis tu mets ta foi en la parole de Dieu, tu la reçois, puis tu l'appliques à ta vie, c'est sûr qu'elle va être agissante, qu'elle va agir, puis tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre qui est selon la volonté de Dieu. N'oubliez pas cela, là. C'est pas écrit dans ce texte-là, mais c'est pas à cause que je me mets à lire la Bible que je vais gagner à la loterie. C'est pas à cause que je me mets à lire la Bible que je vais avoir un beau bond de 26 000 piastres. J'entreprends de m'acheter ci, de m'acheter ça. Ça veut pas dire ça, là. Ça veut dire, tu vas réussir dans tout ce que tu entreprends qui est conforme à la volonté de Dieu. Tu vas avoir une réussite dans ta vie spirituelle, dans ta vie, Dieu peut tout arranger, plein de choses. Mais mets ta confiance, reste dedans, mets en pratique, c'est sûr que tu vas arriver au point où ce que Dieu voulait t'emmener. Prenez-les dans ce sens-là.
Parce que quand
il
porte sur toi, c'est la connaissance de ce que je suis et de ce que je veux pour ta vie.
Oui.
Fortifie-toi. C'est ça que je veux pour toi.
C'est ça.
Et là, tu réussiras parce que tu sauras ce que je voulais pour toi et tu me le demanderas dans la foi. Et
oui, c'est ça.
Tu auras un vrai enfant de Dieu.
Oui. Qui expérimente, qui goûte. Une autre affaire que la parole de Dieu peut nous amener dans Jacques 1, 25. Il y en avait plein d'autres choses que j'aurais pu écrire que la parole de Dieu pouvait faire. J'ai essayé d'abréger ça le plus court possible. Là. On achève. Il faut que ça passe dans une réunion. Il me reste 10 minutes de finir ça. Jacques 1, 25, ça nous dit « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Qu'est-ce que la parole de Dieu peut faire dans notre vie? Elle peut vous rendre heureux. Comment? Mais il faut que tu mettes tes regards dans la parole. Ça veut dire, il faut que tu la lises de temps en temps. Moi, je dirais à tous les jours. Puis ça, il y en a d'autres passages qu'on va lire tantôt. Hein? Être heureux. Y a-t-il quelqu'un qui ne recherche pas à être heureux dans sa vie? Il y en a qui cherchent des recettes du bonheur, ils écrivent des livres, puis il n'y a même pas un seul mot sur Dieu dans tous les livres. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris ce qu'était le bonheur. Ils cherchent le bonheur dans le confort. Là, si j'ai tout le beau, puis si j'ai le chalet, puis si j'ai le gros char, puis j'ai la grosse maison, puis les gros meubles, là, je me sens heureux. Non. Puis le gros compte de banque, ça ne rend pas heureux. Ça ne donne aucune satisfaction dans ton âme. Tu veux être heureux? Sers Dieu, lis sa parole, applique-la à ta vie, oublie-la pas, mets-la en pratique, cherche à vivre conformément à tout ce qui est écrit, puis tu vas l'être heureux. Tu vas pouvoir, même si tu seras pauvre, il y a du monde là, à Haïti présentement qui ont vécu un gros cataclysme, ils ont perdu les membres de leur famille, ils ont perdu leur maison, ils n'ont même plus rien à manger, ils ont juste le linge qu'ils ont sur le dos, ils n'ont même plus aucun service que le gouvernement leur donnait, il n'y a plus rien. Tout est détruit, même le certificat de naissance, tu as pu le trouver, les bâtisses, tout est écroulé. Ils n'ont aucune identité sur la terre, mais c'est du monde qui aime le Seigneur, puis il est en plein milieu de la rue, puis ça louait le Seigneur, puis ça chantait des louanges au Seigneur. Le bonheur, il est intérieur. On s'en fout que le gouvernement ait perdu notre numéro d'assurance sociale. Dieu n'a pas oublié que notre nom est inscrit dans le livre de vie. On est sauvé, on a la vie éternelle. Alléluia! Gloire à Dieu! Ça peut-tu nous apporter quelques bienfaits, cette parole-là? Là, on finit avec ça. Il reste même quelques versets. Pourquoi lire la Bible? Déjà, on a vu plein de points qui nous le dit de la lire, puis de la méditer, puis de la mettre en pratique, puis d'y croire. Matthieu 4:4. Pourquoi que je devrais lire la Bible? Jésus est en train de répondre au diable. Ça s'adonne qu'il nous a écrit ce passage-là, puis il nous est resté écrit. Ça veut dire que c'est pas que pour le diable qui avait écrit cette parole-là, c'était aussi pour nous autres. Il répond au diable, puis il dit l'homme. Donc, c'était pas pour que le diable le mette en pratique, parce que le diable n'est pas un homme. Il dit, il est écrit. C'est un passage de l'Ancien Testament que Jésus servait encore pour répondre au diable. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toutes les paroles de la bouche de Dieu sont où? Sont écrites. On a la révélation complète là-dedans, là, tout ce que Dieu a dit. Puis il dit, tu vivras pas juste de pain. C'est un verset de l'Ancien. Le pain, ça permet ta survie physique. Mais ça permet pas la survie spirituelle. Pour que tu survives spirituellement, il faut que tu nourrisses ton esprit, ton âme. Comment? Nourris-toi de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un ici ne fait pas partie de la catégorie homme? Non? Mais une femme est inclue dans la catégorie l'homme. Femme, enfant, vous êtes en catégorie les hommes de nos temps. Ça s'adresse à vous, ce verset-là. Vous vivrez pas de pain seulement. C'est Jésus qui le dit. Pourquoi je dois la lire? Parce que ça doit nous. Tu dois te nourrir aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça va te permettre de survivre spirituellement. Pourquoi je dois la lire? Parce que c'est Jésus qui nous le dit que je dois la lire. 1 Pierre 2:2. Un autre verset qui nous parle encore qu'on devrait s'en nourrir. 1 Pierre 2:2. Désirez. Comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Tu sais qu'il a déjà vu un bébé qui est venu au monde puis qui ne vous le manifestait pas de temps en temps, qui avait soif. Comment est-ce qu'un enfant nous le manifeste qu'il a soif? Ah! 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 il a faim, il a soif. On a un moment ici dans la réunion, là, le moment d'un nouveau bébé. Ça arrive-tu que le bébé broille parce qu'il a soif? Oui, ça arrive. Puis c'est rare les bébés qui broillent pas quand ils ont soif. La Bible nous dit, désire le lait spirituel et pur comme un enfant nouveau-né. Moi, quand j'ai faim, je suis pas obligé de crier. Mes enfants nouveau-nés crient quand ils ont faim. Moi, d'habitude, je n'ai pas avoir faim. Des fois, je peux dire, hey, je crève de faim, là, il faut que je mange. Mais les enfants, eux autres, ils le manifestent. Puis là, Jésus veut qu'on soit comme les enfants. Désire. Manifeste-les que tu as vu la parole. Faut pas que tu sois indifférent. Si t'es indifférent, puis tu t'en fous, puis tu veux pas la lire, tu veux pas te nourrir, tu veux pas le boire, le lait spirituel et pur, qui est la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'auras aucune croissance dans ta vie si tu la lis pas. C'est ça que le verset dit. Désire-le lait, afin que par lui, tu croisses. Plus tu vas aller ta Bible, plus tu vas grandir dans le Seigneur. Tu peux pas grandir dans le Seigneur sans te nourrir spirituellement. Le gars qui dit, « Oh, moi, je suis un homme de Dieu. » Précite-moi donc Jean 3,16. Ah, c'est quoi ça déjà, Jean 3,16? C'est même pas un seul verset, qui est le verset que tout le monde sait par cœur. Il est pas grand dans le Seigneur, ce personnage-là, qui est même pas capable de réciter un verset. Ça se peut pas qu'un chrétien ne connaisse aucunement la parole de Dieu. C'est impossible. Il n'y a eu aucune croissance. Il est resté bébé. Paul a parlé à des gens, c'est à 3 ans qu'il était converti. Il dit, vous devriez être des maîtres dans la parole, puis vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments de base. Faut faire attention, frères et sœurs. Faut pas évaluer notre croissance face à comment ce que l'autre est à côté. Faut l'évaluer à qu'est-ce que la Bible me dit d'être, puis je dois fixer là-dessus. Si je me fie, mais il n'y a personne dans mon église qui a lu la Bible, donc c'est pas grave que je la lis pas. Des fois, même le pasteur prêche même pas un seul verset dans sa prêche. C'est pas grave, tout le monde est comme ça. Je dis pas ça que ça se passe ici, là. Mais on a toujours des prêches remplies de versets. C'est ça qui est important. C'est la parole de Dieu qui est important. C'est pas les raisonnements qu'on monte au qui est important. C'est la parole qui demeure éternellement. Moi, mes dires personnels, ça va passer. Puis il n'y a pas personne qui va écrire rien de ce que j'ai dit. Peut-être l'enregistrer puis la mettre sur Internet, mais ça ne sert pas à plus grand-chose que ça. Mais ce que Dieu a dit, ça, c'est puissant. Ça peut vous sauver, ça peut vous faire augmenter votre foi, ça va vous faire grandir dans le Seigneur, tu vas croître dans le Seigneur. Si vous négligez la Bible, c'est comme négliger un bébé de se nourrir. Qu'est-ce qui va arriver? Il va mourir. Puis je crois que des chrétiens peuvent mourir spirituellement. Il y en a peut-être qui ne le croient pas, parce qu'ils ont une conviction que le salut ne peut pas se perdre. Moi, je crois que ça peut se perdre, mais c'est de l'expliquer de la bonne façon. Puis ça, on n'est pas là pour parler de ça. Vous devez vous nourrir, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi la lire la Bible dans Luc 8, 21? On achève. Mais elle répondit, Jésus est en train de parler, encore Jésus, c'est important. Ça. Ma mère, parce qu'il y a quelqu'un qui dit, Jésus, ta mère et tes frères sont dehors, puis ils veulent te parler. Jésus se retourne, puis il répond à cette personne-là. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Qu'est-ce que ça va faire si je la lis, je l'écoute la parole et je la mets en pratique? Par là, je démontre que je suis un réel enfant de Dieu. C'est ça que Jésus a dit. Sa mère physique était dehors, puis elle ne l'écoutait pas, puis elle ne la mettait pas en pratique. Elle n'était pas encore convertie. Pour ceux qui pensent que Marie est à sa Immaculée Conception puis qu'elle est sainte, je regrette, Marie est une personne qui avait même confessé elle-même qu'elle se réjouissait en Dieu son Sauveur, puis elle reconnaissait son état de pécheresse devant Dieu. Puis quand Jésus est venu pour y répondre, il a dit, c'est pas eux autres qui sont ma vraie famille, parce qu'ils ne mettent pas en pratique ma parole. Il dit, c'est ceux qui l'écoutent puis qui la mettent en pratique qui sont les vrais membres de ma famille. Qu'est-ce que ça va démontrer si vous la lisez? Vous allez démontrer que vous êtes véritablement un enfant de Dieu.
ça, quand ils montrent le film de Marie, là, puis que Joseph il dit que c'est Marie qui a tout appris ces affaires-là.
C'est faux. C'est faux. Elle a fait des choses, elle a été choisie, Dieu l'a choisie, Dieu l'a bénie parce qu'il l'a utilisée, mais elle n'était pas plus qu'un autre humain. C'est une personne de haute qualité morale, c'est une personne qui n'était pas une prostituée, une débauchée, c'est une personne de haute qualité morale. Elle craignait Dieu, mais elle ne connaissait pas l'ensemble des révélations. Puis on voit que Marie, dans les actes, était avec les gens qui priaient dans la chambre haute pour avoir la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'elle s'est regroupée finalement, elle et ses autres frères à Jésus, sont groupés aux chrétiens. Deux autres versets finis. Matthieu 13, 52. Pourquoi je devrais l'aller? Jésus est en train de parler encore. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de la maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Qu'est-ce que ça va me donner si je lis la parole de Dieu? On va s'instruire, on va tirer de notre trésor. La parole de Dieu, c'est une richesse pour les chrétiens. Et pour Dieu aussi. C'est un trésor. Tout scribe, c'est un scribe, c'est quelqu'un qui enseigne la parole. Tout scribe instruit de la parole de Dieu tire de son trésor. C'est des perles, c'est une richesse. Les révélations de Dieu sont une richesse. Plus vous allez la lire, plus vous allez être riche devant Dieu. Puis vous allez tirer de ce trésor-là des choses nouvelles, des choses anciennes. Dieu va vous révéler encore davantage de choses pour que vous soyez encore plus riches devant lui. Une dernière chose qu'on va voir pourquoi je dois l'aller, c'est Éphésiens 6, 17. Ça nous dit à quoi que ça sert. On l'a mentionné un peu tantôt, mais faut réaliser que c'est pour chacun de nous qu'on a besoin de ça. Dans ce verset-là, ça nous dit de se revêtir de toute la puissance de Dieu. C'est ça que ça nous dit dans Éphésiens 6 avant. De se revêtir de toutes les armes et la puissance de Dieu. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous. C'est quelque chose de puissant qu'on va chercher. Puis un de ces aspects-là, de ce revêtement de puissance-là, prenez le casque du salut, et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Pourquoi je dois l'aller? Ça fait partie de la puissance de Dieu que je dois être revêtu. Parce qu'il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, vous avez à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Si tu marches dans la puissance de Dieu, avec l'équipement que Dieu veut te donner, son épée qui est l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, ça. Sers-toi de ça pour combattre contre le diable. Il dit, tu vas résister avec ça quand ça va mal dans tes jours. Tu vas résister dans le mauvais jour. Après ça, tu vas monter au-dessus de la situation. Tu vas avoir la victoire. Tu vas pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. À cause que tu prends les armes et la puissance de Dieu qui est là à notre disposition. Mais tiens, on mène à cela.
Amen.
Pourquoi je dois aller? Ça fait partie de la puissance que Dieu a voulu nous revêtir, nous équiper pour qu'on puisse combattre contre toutes les légions de démons qui nous assaillent régulièrement. Amen.
J'aimerais ça voir un soldat partir là, à la guerre et qui n'apporte pas son épée.
C'est ça. T'arrives au front avec aucune arme, pas fort. Ou une armée qui envoie ses soldats au front sans armement, sans défense, sans rien pour combattre. L'équipe adverse, inquiétez-vous pas, ils n'ont de l'armement. L'équipe adverse des chrétiens ont de l'armement, puis ils séduisent des milliards de personnes qui s'en vont dans la perdition éternelle, qui meurent dans leur péché. Ils n'ont de l'armement, puis du savoir-faire, puis ils ont de la ruse, puis ils travaillent depuis des siècles à connaître les faiblesses des hommes, puis les faire tomber dans leur ruse, puis les moyens de séduction. Tandis que les chrétiens doivent réaliser que nous autres, on a la puissance de Dieu qui est au-delà pour écraser toute la puissance de l'ennemi, que rien ne pourra vous nuire à condition que vous allez chercher l'armement puis que vous en servez. Amen. Jésus dit, veillez et priez afin d'avoir la force et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Quand toutes ces choses vont arriver là, il y en a une grande tribulation qui est venue sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Dieu a promis de garder ceux qui gardent sa parole. C'est ça que ça dit dans l'Apocalypse. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. L'armement, la puissance de Dieu va accompagner ceux qui y croient puis qui veulent rester fermes à l'appliquer puis goûter tout ce que les bienfaits que la parole de Dieu peut apporter à notre vie. Tiens, on mène à cela. Gloire à Dieu!
Gloire à Dieu!